BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce mercredi 31 mars, nous irons tout d'abord dans l'Eure avec ce fait divers. Trois églises ont été cambriolées, puis nous serons à Étrépagny avec l'école élémentaire qui est fermée jusqu'au 5 avril à cause de cas de Covid-19. Ensuite, nous partirons aux Andelys. Château-Gaillard a désormais sa page Facebook. Et enfin, nous terminerons ce journal avec le département de l'Eure. Ce lundi 29 mars, avait lieu la dernière session plénière de la mandature actuelle où il présentait notamment le budget. Pour l'occasion, Pascal Lehongre, président du département, et Sébastien Lecornu, vice-président, ont répondu à nos questions. Et nous commençons donc ce journal avec ce fait divers dans l'Eure. Trois églises ont été cambriolées. C'est un appel à la vigilance que l'architecte des bâtiments de France de l'Eure, France Poulain, et les membres de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse d'Évreux veulent faire passer auprès des maires du département. Les églises du Fresne, au Val Doré, de Nogent-le-Sec et de Jumelles, près de Saint-André de l'Eure, ont été la cible de cambriolage dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 mars dernier. Plusieurs objets ont été dérobés, parmi eux deux statues dont une vierge à l'enfant, des vases, des bougeoirs à Nogent-le-Sec, une sculpture en bois de Sainte-Christine datant du XVIe siècle a disparu alors qu'elle se trouvait à environ 2 mètres du sol. Le scénario est similaire dans les trois églises, les portes fermées à clé y ont été forcées, le ou les auteurs présumés n'ont semble-t-il ciblé que quelques objets bien particuliers, ce sont peut-être des commandes, avance Stéphane Levert, responsable de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse d'Évreux. Il existe plusieurs réseaux par l'Italie, les Balkans, le Moyen-Orient ou la Belgique et les Pays-Bas. Ça peut intéresser des collectionneurs. Ces faits sont relativement rares. Dans l'Eure, les derniers remontraient à une quinzaine d'années selon France Poulain, qui appelle les élus à la plus grande prudence et à sécuriser davantage les édifices. Les trois mairies ont déposé plainte à la gendarmerie. Nous sommes maintenant à Étrépagny avec l'école élémentaire qui est fermée jusqu'au 5 avril à cause de cas de Covid-19. La commune d'Étrépagny avait été jusqu'ici épargnée par la crise sanitaire, mais la troisième vague épidémique frappe de plein fouet ces écoles. La semaine dernière, la mairie avait placé à l'isolement les ATSEM après la découverte de premiers cas de contamination. Frédéric Caillé, le maire, a souligné que la continuité du service avait été assurée par les personnels de l'association Les Coccinelles, qui gère la garderie, le personnel municipal ainsi que les élus. Une classe a dû être fermée puis une deuxième. Sur les 5 classes que compte l'école maternelle, il n'en reste donc plus que 3. Une campagne de dépistage avec des tests salivaires a donc été menée jeudi 25 mars dans les écoles d'Étrépagny. Sur les 93 tests réalisés en maternelle, aucun cas positif n'a été enregistré. À l'école élémentaire Georges Delamarre, les résultats étaient plus alarmants. Sur les 210 tests, 15 se sont révélés positif. Ce chiffre a contraint les services de l'éducation nationale et l'agence régionale de santé à prendre la décision de fermer l'école jusqu'au lundi 5 avril inclus. Partons aux Andelys. Château-Gaillard a désormais sa page Facebook. Depuis plus de 800 ans, Château-Gaillard domine la ville des Andelys dans l'Eure. Malgré son grand âge, le monument est plus que jamais dans l'air du temps. L'Office de tourisme Nouvelle-Normandie, qui en a la gestion, a lancé jeudi 25 mars une page Facebook entièrement dédiée à la forteresse érigée par Richard Cœur de Lion. Les internautes peuvent désormais y retrouver toute l'actualité du château. En moins d'une semaine, plus de 400 internautes ont liké la page. Pour l'heure, elle est plutôt calme puisque son ouverture pourrait être retardée par le nouveau confinement en vigueur depuis un peu plus d'une semaine. Et nous terminons donc ce journal avec le département de l'Eure. Ce lundi 29 mars avait lieu la dernière session plénière de la mandature actuelle où il présentait notamment le budget. Pour l'occasion, Pascal Lehongre, président du département, et Sébastien Lecornu, vice-président, ont répondu à nos questions. Sébastien Lecornu nous en dit plus sur cette session.
C'est une session qui est évidemment pas ordinaire dans la mesure où c'est la dernière de la mandature. Enfin, sauf évidemment fait exceptionnel qui nous conduirait à devoir de nouveau nous réunir en visio, cela va sans dire pour montrer l'exemple. C'est aussi évidemment une session importante parce que c'est une session budgétaire et qu'évidemment ça marque le cadre politique dans lequel le conseil départemental continue d'agir, et notamment dans cette période de crise et avec un budget, mais je ne serai pas Pascal Londres, parce que c'est lui qui l'a préparé avec l'ensemble des vice-présidents et qui le présentera dans quelques instants à l'Assemblée départementale, le détailler, mais qui tient compte évidemment de ce que nous avons souhaité faire depuis 2015, à savoir faire attention aux données publiques, on y reviendra, notamment en maîtrisant la fiscalité, d'une part, d'autre part, évidemment, continuer d'investir pour préparer à l'avenir et travailler sur l'identité et l'attractivité de notre territoire. Là aussi, on y reviendra. Puis bien sûr, peut-être encore plus en ce moment, pour protéger les plus fragiles. C'est évidemment le triptyque de cette présentation budgétaire.
Pascal Lehongre fait un bilan de cette mandature.
À l'époque, quand on a repris le conseil départemental en 2015, j'étais vice-président finance, et c'était près de 30 000 euros, je dirais, que nous perdions chaque jour en termes de financement. Donc, notre priorité, quand on parle d'économie, notre priorité, ça a été de revisiter toutes nos dépenses de fonctionnement. Et sans diminuer le service public et toutes les actions que nous menions, notre objectif, ça a été de revisiter toutes ces dépenses. Et sur les coûts de fonctionnement, nous avons très rapidement, je dirais, réutilisé 23 millions d'euros sur notre chapitre des dépenses ordinaires de fonctionnement, de façon à les redéployer sur nos politiques volontaires d'investissement, comme on l'avait dit, mais surtout sur nos politiques sociales, puisque je rappelle, sur notre budget aujourd'hui, c'est près de 300 millions d'euros qui sont consacrés à l'accompagnement de nos personnes âgées, de nos jeunes enfants, du handicap et bien sûr des bénéficiaires du RSA. 300 millions sur 437 millions d'euros, donc un effort qui n'a pas du tout été, je dirais, réduit sur cet accompagnement.
Avant qu'ils ne poursuivent.
Et je rappelle, Sébastien l'a introduit, tous nos engagements ont été tenus. Sur nos taux de fiscalité, nous ne les avons pas du tout fait bouger comme c'était tenu. Et grâce à cette redistribution de l'argent, nous avons pu aujourd'hui mener tous nos investissements, l'investissement sur l'éducation, sur les collèges, sur l'accompagnement des collectivités pour reconstruire leurs écoles, notre PPI route avec près de 125 millions d'euros d'investissement sur la période, donc un peu plus de 25 millions d'euros d'investissement par an sur nos routes, vraiment important. Je parlerai aussi sur, je dirais, l'accompagnement du SDIS en termes d'achat de véhicules, en termes d'accompagnement des collectivités pour la défense incendie extérieure, l'achat du matériel, les équipements de nos sapeurs-pompiers de façon à ce qu'ils puissent intervenir de bonnes conditions. Donc, tout ça, nous l'avons fait. Et bien sûr, sur nos personnes âgées, nous avons également lancé une première partie de notre programme EHPAD sur tout notre département. Vraiment, en plus d'avoir, je dirais, revu nos dépenses avec une notation aujourd'hui qui est reconnue sur notre bonne gestion financière, nous avons vraiment tenu nos engagements et nous avons même, malgré la totalité de ces investissements importants, améliorer notre capacité de désendettement.
Sébastien Lecornu nous parle donc du budget du département.
Pour résumer les choses, c'est une collectivité dont on a géré très rigoureusement les finances. Ça nous a permis évidemment d'investir beaucoup. Pascal a rappelé effectivement les 2 fois 500 millions d'euros qui font globalement 1 milliard. Dans un département aussi rural que le nôtre, ça compte, et avec des communes urbaines qui sont parfois pas des communes riches, moins que l'on puisse dire. Deuxième des choses, on l'a fait en faisant beaucoup d'économies, ça a été dit, en maîtrisant la dette. Notre capacité de désendettement, elle s'est largement améliorée. Elle est passée de 4,3 ans globalement à 2,9 ans en 2020. Et on va pouvoir continuer à investir considérablement, tout en ayant pris le soin de ne pas renier sur un certain nombre de postes budgétaires. Je pense évidemment au social, 9% d'augmentation du budget pour les seniors, pratiquement plus de 10 millions d'euros pour la protection de l'enfance. On s'est battu pour augmenter le nombre d'ouvertures de droits pour les personnes en situation de handicap. On a pratiquement 7% de personnes aidées en plus. Donc voilà, on n'est pas sur un schéma d'austérité, mais on a vraiment fait fondre le gras là où il était à l'intérieur. Et ça nous permet évidemment d'avancer. Et deuxième des choses, quand on parle d'équité entre les territoires, là aussi, pour dire les choses très clairement, il n'y a pas de distribution de subventions en fonction des couleurs politiques, des cantons ou des municipalités, ça compte. Et surtout, nous avons autant été le département des ruraux que le département des urbains. Donc, il y a plusieurs types d'enjeux, accès aux services publics, combat contre la misère, autant dans le rural que l'urbain, que nous nous sommes efforcés de relever. Si vous regardez d'ailleurs notre politique en matière de collège, de mixité scolaire, ça répondait à cette ambition-là.
Et enfin, Pascal Lehongre conclut en nous parlant du coût du Covid-19 pour le département.
Le coût Covid, ça a été de l'accompagnement, surtout les actions sociales, pour accompagner nos assistantes familiaux, tout ce qui était aujourd'hui dans nos foyers. Vraiment, tout a été fait aujourd'hui pour maintenir nos aides au niveau associatif, hein, qu'ils soient même culturels ou sportifs. Hein. On a baissé aujourd'hui aucune de nos subventions, alors que en général, certaines associations n'ont pas eu à dépenser dû au non-fonctionnement de leur saison culturelle et sportive. Donc vraiment, on a maintenu toutes nos subventions. On a prévu également les équipements nécessaires, hein, à travers, je dirais, des masques que nous avons fournis à tous nos collégiens. Donc nous avons prévu des budgets de façon à pouvoir continuer à accompagner. Les EPI, comme on l'appelle aujourd'hui, sont prévus dans notre budget pour continuer vraiment à ce que notre collectivité puisse fonctionner. On a développé également le télétravail. Donc aujourd'hui, c'est un coût d'investissement au niveau du matériel. Non, vraiment, dans notre budget, tout a vraiment été prévu puisque on peut voir aujourd'hui, on est en crise et nous pouvons répondre que le service public dans toutes les compétences du département est toujours présent.
C'est la fin de ce journal. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.